Les informations avec Oana Favennec. Bonsoir Oana.
Bonsoir à tous. En Algérie, les manifestations du vendredi continuent et la ferveur des Algériens à soutenir l'équipe nationale de football n'entache pas la détermination des manifestants. La responsabilité des casques bleus néerlandais dans le massacre de Srebrenica est estimée à 10%. La Cour suprême des Pays-Bas a tranché. En France, les sénateurs tentent de durcir la loi contre les passoires thermiques, les logements vétustes qui laissent s'échapper la chaleur. Et puis les chiffres de Parcoursup, la plateforme d'orientation pour les étudiants, ceux dont se prévaut le ministère de l'Éducation, sont contestés. Nouveau vendredi de manifestation en Algérie, le 22e depuis le début de la contestation, à quelques heures de la finale de football de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui opposera l'Algérie au Sénégal en Égypte. C'est donc un vendredi à la saveur particulière dans ce pays où les champs politiques résonnent bien souvent dans les stades de football. Leila Berato s'est rendue dans les rues d'Alger.
On ramène la Coupe d'Afrique et on vire la mafia, et voilà.
Plusieurs milliers de personnes manifestent pour un changement de régime dans le centre-ville de la capitale, comme Ismaël, 29 ans, venu avec ses amis. Ils ne parlent que de la finale de ce soir, mais ils n'ont pas oublié la politique.
Aujourd'hui on manifeste et le match c'est ce soir. Ce soir, à partir de 7h, on commence avec le match et on espère qu'on va ramener la coupe. Et après la coupe, on retourne protester, on recommence pareil.
Sur les trottoirs, aux côtés des drapeaux verts, blancs, rouges, les vendeurs ont désormais des maillots de l'équipe de football.
Les gens demandent Riyad Mahrez, Youssef Belaïli et Bounedja, mais aussi beaucoup Attal.
Abdounour, lui, regarde les stands un peu déçu.
Je veux acheter un maillot de l'équipe nationale, celui de Mbourri, il n'est pas en vente. Les gens, ils veulent avoir Attal, Mahrez, Ben Sebaïni et tout. Moi, j'ai envie d'avoir celui du gardien, de Mbourri.
Dans la manifestation, on chante en chœur « Vous ne nous aurez pas avec le ballon, la liberté coûte que coûte ».
Un reportage de Leila Berato à Alger pour France Culture. En France, un dispositif de sécurité important est mis en place ce soir pour prévenir d'éventuels débordements liés aux résultats du match de football. Interdiction de vente d'alcool, de pétards dans plusieurs départements, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Isère, le Rhône ou encore l'Ain, avec même un couvre-feu pour les mineurs non accompagnés de moins de 14 ans à Montbéliard. Environ 2500 représentants des forces de l'ordre seront mobilisés à Paris pour protéger notamment les magasins des Champs-Élysées. Le navire gît toujours à 85 mètres de fond, mais c'est probablement le coup final de la procédure. Près de 25 ans après le naufrage de l'Estonia en mer Baltique, la pire catastrophe maritime civile en Europe, le tribunal de grande instance de Nanterre déboute les familles de victimes. Elles demandaient 40 millions d'euros de dommages et intérêts aux constructeurs et au bureau Veritas, la société de certification du navire. Bonsoir Ilan Malka.
Bonsoir.
Près de 800 personnes étaient mortes dans ce naufrage, principalement des Suédois.
Oui, les faits remontent à la nuit du 27 au 28 septembre 1994. L'Estonia, qui fait la liaison entre Tallinn et Stockholm, coule avec à son bord 989 passagers, 737 d'entre eux perdent la vie. Les avocats des survivants et ayants droit des victimes se tournent vers la justice française. Ils assignent le certificateur français du ferry, le bateau Veritas, et le constructeur allemand du bateau, Meyerwerft. Ils leur demandent 40 millions d'euros d'indemnité au titre du préjudice moral. Dès lors, plusieurs questions se posent au tribunal de grande instance de Paris. De quel pays faut-il appliquer la loi en l'espèce? Le tribunal décide de retenir la loi du lieu du naufrage, en l'occurrence la loi suédoise. Selon cette loi, pour faire condamner le certificateur ou le constructeur du navire, il faut démontrer qu'ils ont commis une faute lourde ou intentionnelle. Or, et c'est là tout le problème, les circonstances précises du naufrage restent mystérieuses. En 1997, une commission d'enquête suédo-finno-estonienne estime que l'accident est dû à une mauvaise conception du système de verrouillage de la porte avant du navire. Mais le bateau reste échoué à 85 mètres de profondeur, aucune expertise judiciaire indépendante n'est menée et aucune responsabilité pénale n'est engagée dans ce dossier. Pour le TGI, la preuve d'une faute lourde et intentionnelle n'est pas apportée à ce jour. Il déboute donc aujourd'hui les parties civiles. Il les condamne aussi à verser 70 000 euros au certificateur et 35 000 au constructeur au titre des frais de justice. Leur avocat ne sait pas encore s'il interjettera appel ou non.
Ilan Malka. Autre feuilleton judiciaire qui se clôt ce vendredi avec la décision de la Cour suprême néerlandaise sur la responsabilité des Pays-Bas dans le massacre des Srebrenica. Elle est jugée limitée à 10%. Ratko Mladic, le chef de guerre des forces serbes, a déjà été condamné par le tribunal pénal international à la perpétuité pour génocide après le massacre en juillet 1995. 8000 hommes et adolescents bosniaques tués. On retrouve Pierre Benazé à Bruxelles. Bonjour Pierre.
Bonsoir.
Le traumatisme reste vif aux Pays-Bas car l'enclave de Srebrenica était alors sous protection des casques bleus néerlandais.
Oui, effectivement. Alors, la Cour suprême a décidé aujourd'hui que 10% de responsabilité, ça suffisait, en quelque sorte. Ça ne porte que sur 350 des victimes, celles qui étaient restées les dernières dans le périmètre que les soldats néerlandais devaient protéger. Ça confirme définitivement la responsabilité de l'État néerlandais, parce que les militaires du bataillon ne pouvaient pas ignorer le risque que les forces bosno-serbes réservent un sort funeste aux bosniaques. En revanche, la Cour a estimé que rien ne prouve que si les 350 musulmans étaient restés à Srebrenica, ils auraient effectivement survécu. Elle a en quelque sorte estimé que les victimes n'auraient eu que 10% de chances de survivre. Les Néerlandais auraient dû leur proposer de ne pas être évacués par les forces bosno-serbes, dans l'espoir que celles-ci n'osent pas attaquer une base de l'ONU. Cet arrêt, ça ouvre la voie à des demandes de compensation financière pour les familles des victimes. Elles sont présentes depuis 20 ans lors de tous les jugements, qu'ils soient néerlandais ou au TPI, Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. C'est le groupe des maires de Srebrenica. Elles n'ont pas caché leur déception devant cette reculade de la justice, puisque en première instance, la responsabilité était décrite comme complète. Elle avait été maintenue à 30% par la cour d'appel. Les soldats bataves, légèrement armés, ne pouvaient compter sur aucun renfort de la force prévenue. Ils n'ont rien pu faire pour sauver les Bosniaques et c'est effectivement un traumatisme national qui dure aux Pays-Bas. Parallèlement, des soldats du bataillon ont eux-mêmes décidé d'attaquer l'État pour les avoir envoyés accomplir, je cite, une mission irréaliste dans des conditions impossibles.
Merci Pierre Benazé en direct de Bruxelles. Le premier ministre kosovar vient de démissionner. Il a été convoqué par la justice internationale en tant que suspect et a choisi de s'y rendre comme simple citoyen. Pendant le conflit au Kosovo en 1998 et 1999, l'actuel Premier ministre était donc commandant de la guérilla. Deux personnes sont mortes et 12 ont disparu en Chine après une énorme explosion qui a frappé une usine de gazéification. À Pékin, la correspondance de Simon Leplâtre.
C'est une catastrophe industrielle de plus en Chine. À Sanmenxia, dans le Henan, une province du centre, une usine de gazéification a explosé en fin d'après-midi vers 18h, provoquant une déflagration gigantesque. Sur les vidéos publiées par des habitants choqués, on voit des appartements dévastés. Non seulement les vitres ont été soufflées, mais parfois ce sont même les fenêtres, parfois même les portes et puis sur toutes les vidéos, cet immense panache de fumée grise qui s'élève au loin. Pour l'instant, deux personnes ont été déclarées mortes, mais au moins 12 sont portées disparues, alors que les blessés se comptent par centaines. Les images sont choquantes, mais malheureusement presque banales en Chine. La dernière explosion de cette ampleur remonte à seulement 4 mois. C'était au nord de Shanghai, dans un parc chimique, et 78 personnes avaient perdu la vie. Bref, malgré le développement de la Chine, les normes industrielles ne sont toujours pas respectées, parce que le profit passe souvent avant la sécurité pour les entreprises et pour les autorités qui ferment souvent les yeux sur les pratiques de gros fournisseurs d'emplois et de taxes.
Simon Leplâtre à Pékin. Au Japon, l'homme soupçonné d'avoir mis le feu hier à un studio d'animation de Kyoto l'aurait fait pour se venger d'un plagiat. Connu des services de police, il aurait également reçu des soins pour des troubles psychiques. Selon la chaîne publique Nippon TV, l'incendie avait fait 33 morts. Quand Angela Merkel sermonne Donald Trump, la chancelière allemande a pris fermement position aujourd'hui contre les récents tweets du président américain. Ceux qui s'en prennent aux quatre élus démocrates issus de l'immigration, estimant qu'ils vont à l'encontre de la grandeur américaine. Angela Merkel s'exprimait lors de sa traditionnelle conférence de presse estivale à Berlin. Les sénateurs remettent un peu de vert dans le projet de loi énergie et climat. Ils ont voté la nuit dernière le texte en première lecture. Et sur le sujet de la rénovation énergétique des logements, ils ont choisi d'interdire la location en les considérant comme indécents s'ils sont classés F ou G. Cela concerne un peu plus de 7 millions de logements. La mesure des sénateurs s'inspire directement de promesses de campagne du chef de l'État, Véronique Rebeyrotte.
En 2017, Emmanuel Macron promettait d'interdire à la location les logements les plus énergivores à partir de 2025. Promesse de campagne présidentielle balayée par les députés lors de l'examen du projet de loi en première lecture, c'était en juin dernier. Préférant le volontarisme à la sanction, dixit le ministre de l'écologie François de Rugy. Le texte des députés renvoie donc à 2028 la possibilité de sanctionner les propriétaires de passoires thermiques qui n'auraient pas réalisé les travaux d'isolation d'un logement qu'ils entendent vendre ou louer. Les sénateurs vont donc bien plus loin que les députés. Dès 2023, les locataires en place dans des logements les moins isolés pourront en réclamer la mise aux normes, une disposition adoptée à une courte majorité grâce à des amendements de sénateurs indépendants, centristes et communistes, contre l'avis de la toute nouvelle ministre de l'écologie, Elisabeth Borne. Le gouvernement a réussi à atténuer tout de même la portée de cette disposition en prévoyant d'exclure de cette obligation de mise aux normes les logements en copropriété, soit 73% tout de même des passoires thermiques. Des avancées jugées intéressantes par la Fondation Abbé Pierre, qui redoute qu'elles ne soient de courte durée, il n'est pas sûr qu'elles passent le cap de la commission mixte paritaire du 25 juillet prochain, commission qui doit accorder les textes des sénateurs et des députés.
Véronique Rebérotte. Les membres de Greenpeace ne peuvent plus s'approcher des trains d'Orano, ex-Areva. Le tribunal de Paris leur interdit par référé de se trouver à moins de 250 mètres des convois de transport de matières et de déchets nucléaires ou radioactifs. Et ceci jusqu'au 25 septembre, la date de fin du débat public sur la gestion des matières radioactives. L'organisation écologiste annonce vouloir faire appel de cette décision, s'estimant bâillonnée. Y a-t-il moins ou plus de laissés pour compte de la plateforme Parcoursup cette année? La plateforme d'orientation souffle sa deuxième bougie. Le ministère de l'Éducation affiche une amélioration. L'UNEF dément. Une bataille de chiffres qui s'explique par les étudiants pris en compte, Théo Conscience.
Oui, en tout, plus de 58 000 jeunes sont toujours sans affectation pour l'an prochain. Une grosse moitié d'entre eux sont des lycéens qui viennent d'avoir le bac. Le reste sont des candidats en réorientation ou scolarisés à l'étranger. Pour autant, selon le ministère de l'Enseignement supérieur, la situation s'est améliorée par rapport à l'an dernier, notamment grâce à un calendrier accéléré. Jérôme Teillard est chargé de mission Parcoursup au ministère.
Cette année, c'est allé plus vite. Si je compare à date, on a 5 points de plus. Donc 88,6% des candidats lycéens ont eu une proposition. Évidemment, on était à 83 l'an dernier, donc c'est mieux, ça va plus vite. Donc ça a ajouté de la sérénité dans les lycées.
Baliverne, répond l'UNEF. 58 000 candidats sans affectation, c'est presque 11 000 de plus que l'an passé. Si le ministère y voit une amélioration, c'est parce qu'il ne prend en compte que les lycéens et laisse de côté les candidats en réorientation. La présidente de l'UNEF, Mélanie Luce.
On se retrouve avec des étudiants qui, l'année dernière, ont candidaté sur Parcoursup, se sont retrouvés sans solution ou alors avec une solution qui ne les intéressait pas, ont passé un an à travailler et qui recandidatent, mais cette année n'ont pas de réponse. Donc on ne peut pas juste rayer de la carte ces étudiants et faire comme s'ils n'existaient pas. Il faut les compter dans le dispositif.
Quelle que soit l'analyse de ces chiffres, l'UNEF estime que personne ne peut se satisfaire de ces 58 000 candidats laissés sur le carreau. Le syndicat en tire deux conclusions. D'abord, la nécessité urgente de créer de nouvelles places dans l'enseignement supérieur. Ensuite, l'impasse que représente ce système basé sur la sélection.
Merci Théo Conscience. À présent, direction le Festival d'Avignon. On y retrouve Arnaud Laporte. Arnaud, la question du jour, quand une Chinoise et une Tchèque se rencontrent, qu'est-ce qu'elles se racontent?
C'est en effet la question du jour, celle que l'on pouvait se poser en allant découvrir Ordinary People, co-signée par Jana Svobodova et Ruen Hui. La première est diplômée de l'Académie des Arts du Spectacle de Prague, où elle vit. Son théâtre est engagé, politique. Elle dirige aussi le Festival International du Théâtre Documentaire d'Akshent. La seconde a étudié la danse traditionnelle chinoise et ensuite la chorégraphie à l'Académie de danse de Pékin. Elle a suivi les cours avec Trisha Brown ou la compagnie Pina Bausch. Elle a ouvert le premier studio de danse indépendant en Chine en 1994. Ses spectacles mêlent danse, TX et films documentaires. Revenons donc à notre question initiale. Quand une Chinoise et une Tchèque se rencontrent, qu'est-ce qu'elles se racontent? Mais en fait, on aurait dû demander qu'est-ce qu'elles nous racontent. Eh bien, elles nous parlent, comme l'indique le titre, des gens ordinaires, des femmes, des hommes, des artistes, mais aussi des ouvriers, des autodidactes de tous âges. Ce sont elles et eux qui viennent nous raconter comment elles et ils ont traversé l'histoire tumultueuse de leur pays et comment les systèmes totalitaires communistes, dont elles et ils sont issus, ont modifié le cours de leur vie, dans leur intimité comme dans leur vie sociale. Alors on voit se tisser sur scène des liens entre des individus qu'on n'aurait pas imaginés aussi proches. Récits, danses, images projetées, les mains se tendent et une fraternité nouvelle prend naissance sous nos yeux. Si le théâtre est toujours politique, comme le rappelle souvent Olivier Pie, le directeur du festival, Disons qu'il l'est plus évidemment dans certains spectacles que dans d'autres. Et le fait que les protagonistes et interprètes de Ordinary People aient réellement éprouvé dans leur corps ce que peut produire un système coercitif donne à leur création plus de force, plus de nécessité. À demain pour les grands débuts d'un tout jeune metteur en scène.
À demain et la météo des prochains jours. Les températures devraient commencer à monter ce week-end et un épisode caniculaire plus court mais intense se profile pour le début de la semaine prochaine.